Voici une traduction en français de la conférence enregistrée numéro 6409C22 SHSBC 40 intitulée Un regard sur l'étude. Il s'agit d'une conférence donnée par Elron Hubbard le 22 septembre 1964 aux étudiants du Saint-Hill Special Briefing Course. Copyright 1964-1982, Elron Hubbard, tout droit mondiaux de reproduction réservé. Nous sommes le combien de quel mois? Le 22 septembre, AD14, Saint Hill Special Briefing Course. Très bien, j'ai quelque chose à annoncer. Vendredi dernier, les notes que vous avez obtenues pour l'examen sur les conférences n'ont jamais été aussi élevées. Maintenant, j'essaie d'écrire quelques livres. Plus je donne de conférences, moins j'écris de livres, en fait. Il se peut, je ne le garantis pas, mais il se peut que nous ayons un système selon lequel il y aura une conférence le mardi, que vous réécouterez le jeudi, et sur laquelle vous passerez un examen le vendredi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous va? Très bien. Excellent. Eh bien, au cours de cette conférence, nous allons passer en revue le sujet de l'étude. Nous allons très rapidement passer en revue le sujet de l'étude, ce qui ne veut pas dire qu'après avoir entendu cette conférence, vous n'aurez plus besoin d'écouter les autres conférences. Car la présente conférence ne contiendra pas forcément tout ce qui est dit dans les autres. Mais je tiens à revoir rapidement avec vous ce sujet appelé l'étude. Mon intention était d'écrire un livre sur le sujet, je ne vais pas tarder à le faire, mais ce n'est pas le genre de livre que vous bâclez en 3 secondes. Parce que si j'écris un bon livre sur les données que nous possédons à présent, vous rendez compte bien sûr qu'un tel livre va atterrir dans un domaine où il n'existe aucun livre, aucune donnée, aucune technologie sur l'étude, sur la façon d'étudier. Maintenant, vous pouvez chercher en vain, dans les rayons des bibliothèques des grosses universités et ainsi de suite, un livre qui dise simplement à l'étudiant comment étudier. Je sais que ça paraît extraordinaire, mais dans leurs écoles normales, ils enseignent essentiellement comment étudier, alors qu'ils n'ont aucun livre qui dit comment étudier. Ils n'en ont même pas dans les écoles normales supérieures. Vous avez tous ces pauvres types dans les universités, à qui on ne cesse de répéter qu'ils ne savent pas étudier, mais il n'y a aucun livre sur le sujet. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer avec un tel livre? Si ce livre explique tranquillement ce que sont l'étude et l'éducation, comment étudier, comment approcher ce sujet, les pièges qu'il comporte, ce qu'il faut éviter, à quoi reconnaître un bon et un mauvais manuel d'étude, etc., etc. Et si ce livre explique tout cela chapitre par chapitre, avec beaucoup de clarté, en termes simples, et si en passant il dit que ces données viennent d'un sujet appelé la scientologie, à votre avis, où ce livre va-t-il atterrir? Probablement entre les mains de chaque étudiant qui entre à l'université partout dans le monde. Il faudra jeter par la fenêtre les cours consacrés à l'éducation, parce que ce ne sont pas des cours sur l'éducation. L'une des choses qui cloche avec l'éducation des enfants aux États-Unis en ce moment, c'est qu'il n'existe aucune technologie de l'éducation. C'est comme si on essayait de réparer une radio, alors qu'on n'a aucun manuel d'instruction et qu'on ne sait même pas ce que c'est, une radio. Et si vous essayez de réparer une radio comme ça, ce serait une situation plutôt exaspérante, étant donné que vous ne sauriez même pas à quoi la radio est censée servir si vous parveniez à la réparer. Pour vous dire à quel point la technologie de l'éducation est mauvaise dans les écoles et dans les universités, on avait fait passer une série de tests à des enfants de diverses classes. C'était à Johannesburg, soit dit en passant. On avait pris des groupes d'enfants dans chaque classe, depuis la plus jeune jusqu'à la plus âgée. Et les tests ont révélé très clairement que plus les enfants allaient à l'école, plus ils devenaient bêtes. Et je n'arrivais pas à en trouver la raison. Tout ce que j'ai pu en déduire, c'est que si une telle chose était possible, et que personne ne faisait rien pour y remédier, c'était parce qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas, ici. Et en effet, il était ressorti qu'il y avait quelque chose qu'on ne savait pas. Plus les enfants allaient à l'école, plus ils devenaient bêtes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire selon laquelle l'éducation est censée rendre les gens intelligents? Nous avions là la preuve formelle que ce n'était pas vrai. Vous preniez la classe des enfants de 8 ans, et ils avaient un certain QI et un certain graphique. Vous preniez la classe des enfants de 9 ans, ils avaient un certain QI et un certain graphique. Vous preniez la classe des enfants de 10 ans, ils avaient un certain QI et un certain graphique. Et vous preniez la classe des enfants de 11 ans, ils avaient un certain QI et un certain graphique. Et après avoir tracé tous les graphiques, et en tenant compte du fait que certains enfants ne connaissaient pas autant de vocabulaire que les autres, eh bien nous avons constaté que c'était la chute libre. Leur QI dégringolait. Le QI le plus élevé que nous ayons jamais enregistré chez un étudiant, bien ça a été chez un écolier de 12 ans, à Johannesburg. Il ne s'agissait pas d'Oppenheimer ou d'Einstein, voyez. Il s'agissait d'un écolier de 12 ans, le QI le plus élevé que nous ayons jamais enregistré. Eh bien, c'est l'âge idéal. Il connaît suffisamment de vocabulaire pour comprendre le test, et il n'en possède pas suffisamment pour que ça l'empêche de le comprendre. Donc, si plus vous étudiez quelque chose, plus vous deveniez stupide, il était clair pour moi qu'il y avait quelque chose dans le domaine de l'éducation qui n'allait pas. Bien sûr, nous le savons maintenant, plus vous étudiez quelque chose longtemps, plus vous avez de chances et d'occasions de rencontrer des mots que vous ne connaissez pas. Et voilà. C'est tout simple. Plus vous étudiez, plus vous avez de chances de rencontrer des mots que vous ne connaissez pas, et dont vous êtes incapable de donner la définition. Prenez le domaine des arts. Rappelez-vous que seuls les mots mal compris provoquent cette condition. Prenez tout particulièrement le domaine des arts. C'est un domaine que je connais très très bien. Prenez l'artiste moyen qui gagne sa croûte en dessinant des lignes, ou en se servant d'un aérographe, ou en trempant son pinceau dans la peinture, qu'il vende ses œuvres à monsieur et madame plein aux as, ou à la galerie du coin, ou qu'il les expose dans la rue, là n'est pas la question. Ce que je veux dire, c'est que l'artiste moyen, et c'est pareil avec l'écrivain et avec le poète aussi, pourriez même inclure là-dedans les beaux-arts, l'architecture et ainsi de suite, eh bien tout ce beau monde a certaines caractéristiques particulières que je n'ai jamais vraiment comprises. Et ces caractéristiques particulières sont les suivantes. Quand vous examinez le passé d'un très grand nombre d'écrivains professionnels, qui étaient de bons écrivains et qui écrivaient invariablement des best-sellers, vous ne trouviez personne parmi eux qui possédait le diplôme d'un cours d'écrivain. Mais alors, personne. Je veux dire, vous ne trouviez même pas l'exception qui confirme la règle. Négatif sur toute la ligne. Je me rappelle une fois où je me trouvais dans un grand appartement chic de Riverside Drive, à New York. Et l'endroit, le salon de l'appartement, était rempli à craquer de quelques-uns des plus grands noms de la littérature de fiction américaine. Ils étaient presque tous là, et éparpillés parmi eux, il y avait quelques-uns de leurs agents littéraires qui se tenaient plus ou moins à l'écart, essayant de se déguiser en radiateur ou quelque chose comme ça. Et ce sujet est venu dans la conversation, pas seulement le sujet du métier d'écrivain, mais le sujet de l'éducation en général. Et nous avons fait un recensement à main levée, et pas un de ces écrivains n'avait terminé l'université, et encore moins une école d'écrivains. Ils s'étaient tous fait jeter de l'université, presque tous s'étaient fait jeter de l'université, ou bien n'y avaient jamais mis les pieds. Et voilà. Et une autre vérification a montré clairement et indiscutablement qu'aucun d'entre eux n'avait jamais suivi nulle part le moindre cours pour apprendre à écrire. Eh bien, ça aussi, c'était très surprenant. Et ce n'est pas quelque chose que vous écririez dans le magazine des écrivains, parce que les rédacteurs du magazine n'aimeraient pas du tout ça. Vu les idées qu'ils ont à cœur, et vu la publicité qu'ils passent dans leur magazine pour des cours d'écrivains. Donc ce n'est pas le genre de choses que vous trouvez imprimées. Et j'étais sur le point de laisser tomber le sujet et de dire « Eh bien, ça y est, c'est tout ». parce que j'avais pris des notes pour les 2 ou 3 enthousiastes qui avaient démarré tout ça. J'étais en train de dire, eh bien, je crois que nous sommes fixés maintenant, ou quelque chose comme ça. Et tout le monde riait. Quand soudain, nous avons entendu quelqu'un là-bas dans le coin qui disait d'une toute petite voix, « Eh bien, vos chiffres ne sont pas tout à fait justes. » Quoi ? Vous savez, quoi ? Qui a dit ça ? Je suis agrégé de littérature et j'ai 2 ou 3 autres diplômes et j'ai terminé l'université, plusieurs autres universités et j'ai suivi des tas de cours pour apprendre à écrire. Donc ça ne s'applique pas à tout le monde dans cette pièce. Et tout le monde s'est retourné pour regarder ce type et voir de qui pouvait s'agir. Il s'agissait bien sûr d'un agent littéraire. Il n'était pas écrivain. Il n'avait pas publié une ligne de sa vie. Tout ce qu'il faisait, c'était dire aux gens ce qui n'allait pas avec leur récit. Mais il avait essayé d'être écrivain, et il avait échoué. Et j'ai dit à ce moment-là, il se passe vraiment des choses bizarres. Il y a tout un tas d'escrocs qui vendent des cours pour apprendre à écrire, des cours qui ne vous apprennent pas à écrire. Je ne citerai pas de nom parce que ce n'est pas nécessaire et qu'il s'agit de toutes les grosses universités clinquantes qui existent aux États-Unis. Je me demande bien ce qu'elle fabrique. Eh bien, la question était ouverte. Mais au cours des années suivantes, j'ai approfondi la question. Ça m'a tellement intéressé que j'ai approfondi la question. Et j'ai découvert qu'aucun cours pour apprendre à écrire n'apprenait à écrire. Ils ne vous apprennent pas à écrire. Je ne sais pas ce qu'ils apprennent, mais la technologie qu'ils emploient et qu'ils affirment être celle de l'écrivain n'est pas la technologie de l'écrivain. Comprenez ? Par exemple, ils disent qu'il existe telle technique, alors que ce n'est pas vrai. Les écrivains ne se servent pas de leur technologie. Point final. Au cas où certains d'entre vous auraient suivi un cours pour apprendre à écrire, je suis sûr qu'on a dû vous parler de préfiguration, et je suis sûr qu'on a dû vous parler de tout un tas de trucs qu'on doit employer pour écrire. Eh bien, les écrivains ne s'en servent pas. Et quand ils s'en servent, ils ne les appellent pas comme ça. Il existe donc, voyez-vous, une technologie employée par les écrivains, mais elle n'est pas enseignée dans les universités et elle n'est pas enseignée dans les cours pour apprendre à écrire. Je me rappelle une fois, j'en frémis encore, où je m'étais levé pour parler à un groupe de gens qui apprenaient à écrire des nouvelles, et j'étais sur le point de prendre une longue inspiration et de dire « Mesdames et messieurs, bonsoir, comment allez-vous ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ?» Donc j'étais sur le point de me lancer. Quand j'ai vu en face de moi, sur le bureau, l'un de mes livres grand ouvert. Ils s'en étaient servis pour leur cours. Et en face de chaque paragraphe, il y avait des symboles ou des mots bizarres pour expliquer ce que j'avais fait. Eh bien, j'aurais probablement fini à l'asile si j'avais essayé de penser à tout ça en même temps. Dans tel passage, il y avait une préfiguration, et dans tel passage, il y avait un caractère, etc., etc. Et j'étais censé avoir écrit tout cela selon un plan. Ça m'a stoppé net. Je me trouvais en présence d'une technologie dont je ne m'étais jamais servi. Voyez la mystification. Et vous aviez là ces pauvres bougres qui essayaient d'apprendre à écrire. Or, il existe un sujet appelé « écrire ». Ce sujet existe. L'ennui, c'est que les écrivains sont des menteurs professionnels, et quand ils commencent à dire aux gens comment ils écrivent, ils se mettent à inventer comme des fous. La dissertation la plus délirante que j'ai lue sur le sujet, est, je crois, de Edgar Allan Poe, et je l'ai trouvée dans chaque manuel qui traite de la façon d'écrire des nouvelles. Il s'agit d'une dissertation de Poe sur la façon d'écrire. Eh bien, c'est l'un des textes les plus merveilleux que vous puissiez lire. Et si vous voulez le lire, je l'ai lu une fois pour m'amuser, et toutes ses recommandations étaient en contradiction complète avec la façon dont il écrivait ses histoires. Peut-être que les écrivains veulent avoir le marché pour eux tout seuls et éliminer la concurrence, ou peut-être qu'ils veulent autre chose, mais toujours est-il qu'ils ne vous diront jamais vraiment ce qu'ils font. Donc il n'existe aucune technologie dans ce domaine particulier. Par contre, il y a beaucoup de soi-disant technologies dans ce domaine. Je vous parle simplement d'un domaine ici qui n'a rien de standard, mais que je connais bien. C'est un domaine non codifié, et c'est l'une des formes d'art. Absolument aucune codification. Ce n'est que lorsque vous commencez à descendre dans les domaines techniques, comme les arts graphiques. Les arts graphiques ne sont qu'une forme d'art inférieur, vous voyez, c'est un procédé de reproduction de l'art. Comment faites-vous pour reproduire ce tableau dans un magazine? Autrement dit, ce n'est pas un art créatif. Eh bien, cette technologie, ouïouïouï, vous commencez à faire quelque chose légèrement de travers, ou vous commencez à tirer vos négatifs de séparation en vous écartant très légèrement des normes. Vous savez, les négatifs de séparation, le négatif rouge, le négatif vert et le négatif jaune qu'il vous faut avoir pour avoir trois plaques d'imprimerie. Et il faut placer ces plaques de telle façon qu'elles soient exactement superposées. Une sacrée technologie. Vous devez avoir la même tache de gris sur chaque négatif et elle doit faire au moins 5 mm. Et il faut qu'elle soit exactement au même endroit sur chaque négatif quand vous regardez l'appareil à mesurer la densité. Une sacrée technologie. Une technologie très complexe. Vous y trouvez les divers types d'encre, les différents pigments, les différents tableaux de couleurs, les différents systèmes employés. Il y a toutes sortes d'appareils de reproduction pour les lignes fines et les pointillés. C'est une technologie complexe, très complexe. Vous avez la technologie de l'imprimerie, la technologie de... Eh bien, prenez la retouche. C'est une branche de la photographie qui est d'une complexité comparable. Un retoucheur est quelqu'un qui, avec telle encre ou telle couleur, est capable de modifier les traits d'une personne sur une photographie. Il est capable de faire toutes sortes de choses. C'est une sacrée technologie. C'est un art appliqué. Un art extrêmement appliqué. Une technologie énorme. Eh bien, comment se fait-il que vous deviez savoir tout ça alors que ce parent proche de la famille des arts, la littérature, ne possède aucune technologie codifiée, ou plutôt, possède une fausse technologie. Et comment se fait-il que dès le moment où l'œuvre écrite ou l'œuvre peinte entre dans le domaine de la reproduction et dans le royaume de la diffusion et des médias, nous pénétrions dans l'une des technologies les plus complexes et les plus rigoureuses? C'est à se demander comment ces choses peuvent faire partie de la même famille. D'un côté, vous avez le domaine de la littérature, où il n'y a aucune technologie. Pire que ça, tout le monde vous fait croire qu'il y en a une, et vous dit que si vous l'étudiez vraiment d'arrache-pied, vous aussi, vous pourrez crever de faim dans une chambre de bonne, voyez. Et juste à côté, vous avez cet autre domaine très complexe. Eh bien, il y a une sorte de similitude avec... Eh bien, j'ai mentionné la retouche. Prenez un portrait, n'importe quel portrait. Chaque fois que vous avez un négatif parfait, qui vous permet de tirer des épreuves, de faire des agrandissements et ainsi de suite, puis vous donnez ensuite la photo à quelqu'un qui va dire « comme Isabelle est jolie en ce moment », eh bien ce portrait, vous devez le retoucher. Tous les grands studios retouchent. Quelquefois, ils retouchent trop. Quelquefois, emportés par un désir enthousiaste de donner belle apparence au sujet, ils lui enlèvent pratiquement tous les traits. Mais toute photo prise dans un studio, puis encadrée ou agrandie ou présentée comme photo d'exposition, eh bien, il a fallu la retoucher. Le retoucheur, ce n'est pas le photographe. On pourrait les comparer au duc et au majordome. Le photographe est indubitablement le duc. C'est lui qui accomplit toutes les actions qui aboutissent à la photo. Et personne ne prête beaucoup d'attention au retoucheur. Le retoucheur est assez grassement payé, mais tout ce qu'il fait, c'est rester tranquillement, assis là, faire son travail, et toucher une bonne paye, voyez. Eh bien, c'est un travail qui requiert une très grande précision. Le nombre de choses que vous pouvez faire en retouche est absolument illimité. Vous pouvez faire les choses les plus extraordinaires qui soient. Vous prenez ce négatif qui représente une jeune fille très ronde, et elle a horreur de ça. Le retoucheur peut la rendre mince. Ou bien vous avez ce gars qui ne veut pas paraître vieux. Bon, vous ne pouvez pas lui enlever trop de rides, sinon son caractère va disparaître. Mais si vous êtes très bon, vous pouvez retirer quelques rides ça et là, et lui enlever environ 15 ans. Bing. Et il va trouver la photo jolie. Parce que naturellement, les gens qui achètent ces photos, ce sont les gens qui se sont fait tirer le portrait. Ils achèteront uniquement quelque chose qui les flatte. Donc, le domaine du portrait a pour objectif de donner aux gens une apparence flatteuse. Pas une apparence plus dramatique, mais une apparence flatteuse. Parce que les gens n'aiment pas vraiment les photos dramatiques. Ils aiment les jolies photos. L'autre jour, j'ai lu une dissertation qui explique pourquoi on ne permet pas au grand public de faire partie d'un jury dans une exposition d'art. C'est parce qu'ils choisiraient uniquement des tableaux ou des photos qui représentent des chatons qui tombent d'un panier ou qui portent des barboteuses ou des petits enfants avec de la confiture plein la figure. Ce seraient les seules photos qui décrocheraient un prix. Et le grand public a un autre critère par lequel il juge une photographie. Si elle n'est pas contrastée, ce n'est pas une bonne photo. Admettons que vous preniez une photo professionnelle d'un matin très brumeux. Évidemment qu'elle n'est pas contrastée, mais c'est une belle photo. Et le public la jetterait au panier. Et c'est pour ces raisons particulières qu'on ne permet absolument pas au public de juger une œuvre. Par contre, on ne l'empêche jamais de donner son avis sur un portrait. Et c'est pourquoi il faut le retoucher jusqu'à la dernière extrémité, si je puis dire. Il faut que les gens aient l'air plus beaux, voyez. C'est dingue, certains de ces portraits ne ressemblent pas plus au sujet original qu'au premier homme dans l'espace. Eh bien, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment cela se fait-il? Lorsque le photographe échoue, le retoucheur entre en scène. Tout ce que fait le retoucheur, vous pouvez le faire avec votre appareil photo et vos spots. Vous pouvez tout faire avec votre appareil et vos spots. Mais quand le photographe rate son coup, le retoucheur recolle les morceaux. Les photographes ont différents trucs. Bon, je ne tiens pas à vous ennuyer avec tout un tas de mots techniques. Ne faites pas attention à ces mots techniques, ce ne sont que des mots. Ils ont ce qu'on appelle des caches. Un mot qui veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est ce qu'ils mettent sur les côtés du spot, un peu comme des œillères, pour que la lumière ne se reflète pas sur l'objectif ou pour qu'elle n'éclaire pas certaines parties du sujet. Et puis ils ont quelque chose qu'on appelle cache-tête, qui est un grand panneau en carton et qui empêche par exemple la lumière d'éclairer l'oreille du sujet. Vous placez le panneau de telle façon que l'oreille de la personne n'est pas bien éclairée. Disons qu'elle a de grandes oreilles, eh bien vous pouvez placer une ombre exactement sur l'oreille, et l'oreille paraît alors plus petite. Vous illuminez toutes les parties que vous voulez mettre en évidence, et la formule est la suivante, toutes les parties que vous ne voulez pas mettre en évidence, eh bien vous les plongez dans une semi-obscurité. Et les parties que vous voulez pratiquement éliminer de la photo, eh bien vous les coupez de toute lumière. Et on ne les verra pas. Et la photographie, bien sûr, photo signifie lumière, et graphie signifie écrire, consiste simplement à écrire avec la lumière. Et quand vous avez bien écrit avec la lumière, vous obtenez une photo aussi parfaite qu'une photographie retouchée. Vous pouvez mettre les gens dans une position qui leur donnera l'air beaucoup plus mince. Vous pouvez leur rallonger le nez, rendre leur front moins proéminent et leur menton moins pointu, et ainsi de suite. Vous pouvez tout aussi facilement prendre une personne au menton carré et lui donner un menton fuyant. Vous pouvez faire toutes sortes de choses extraordinaires. Mais quand le photographe ne fait pas son boulot, eh bien quelqu'un doit entrer en scène et rattraper ce qui ne va pas. Et c'est là où la technologie devient de plus en plus grande. La technologie se développe dans le domaine de la correction. Donc, à mon avis, et ce que je vais dire est assez sommaire et pourrait subir pas mal de modifications, dans tout sujet extrêmement technique, je pense que la technologie se développe dans le domaine de la correction. Quelque chose n'est pas satisfaisant et on doit le corriger. Vous me suivez ? Très bien. Le photographe ne fait pas son travail, il place mal son cache-tête, résultat, les oreilles du gars ressemblent à des oreilles d'âne. Eh bien, personne ne va acheter cette photo. Et quand la pellicule est développée, on ne montre même pas la feuille d'épreuve au client. On lui montre même pas les épreuves. Le retoucheur s'empare de la chose et réduit les oreilles, les rend moins visibles, donne meilleure apparence au gars et l'on tire de nouvelles épreuves. puis on les montre au client, et celui-ci est très satisfait. Il a fallu corriger. Corriger. Et vous pouvez dire que lorsque quelque chose n'a pas été fait correctement la première fois, il faut le corriger. Et quand il faut corriger, une technologie importante va faire son apparition. Vous me suivez ? Bon. Si l'on fait quelque chose correctement, on n'aura pas besoin d'une technologie supplémentaire. Mais si vous le faites correctement la première fois, c'est donc que tout est en place et fonctionne en souplesse et sans le moindre problème. Autrement dit, dès l'instant où vous possédez la technologie qui permet de faire les choses comme il faut du premier coup, tout marche comme sur des roulettes. Mais disons qu'il manque un bon morceau de technologie, ou qu'on ne la connaît pas, ou encore qu'on ne l'applique pas, eh bien une technologie extrêmement complexe va faire son apparition à l'autre bout, que l'on qualifiera de sujet inférieur et qui aura simplement pour but de corriger le sujet supérieur de A jusqu'à Z. Partout où vous avez une technologie gigantesque, c'est uniquement pour des raisons de correction. Autrement dit, elle est basée sur une correction. Il a fallu corriger quelque chose, à un point bien précis, quelque chose qui ne fonctionnait pas correctement au départ. Maintenant, prenons le sujet des corps. Prenons quelque chose de bien défini. Bon, le photographe n'a pas bien fait son travail et il a donc fallu s'en remettre au retoucheur, et celui-ci a dû entièrement retoucher le négatif, retirer des bouts, ça et là, faire ceci et cela, et ainsi de suite, avant qu'on puisse en tirer une épreuve. Eh bien, ne nous arrêtons pas là, allons un petit peu plus loin, et entrons dans le domaine de la construction des corps. Si les gens sont si mécontents de la façon dont les corps sont faits, c'est que quelqu'un les a mal construits. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Et je vous ferai remarquer qu'il n'existe aucune technologie connue dans ce domaine. Vous avez les généticiens, vous avez les céréales beau corps, le petit déjeuner de l'athlète, vous avez toutes sortes de technologies erronées, vous avez la deuxième dynamique et le freudisme, etc. Mais ces choses n'ont absolument rien à voir avec la construction, la fabrication des corps. Je ne vois pas le rapport entre la deuxième dynamique et la fabrication des corps. C'est parce qu'on a associé ces deux choses et que l'une vient inévitablement après l'autre, soi-disant, mais ce n'est pas forcément vrai. Eh bien, c'est quoi tout ça? Nous sommes dans un domaine complètement inconnu, pas vrai? Et des tas de superstitions et de conceptions erronées y sont rattachées, ce qui a fait dire à un zigoto à Vienne en 1894... Le problème principal de la race humaine, c'est qu'elle n'a pas de technologie pour la fabrication des corps. Elle a nous compris à l'envers. Quelque chose comme ça, voyez. Il y a quelque chose qui gloge. Et Freud a donc développé la psychanalyse, qui s'est avérée très populaire. Pas efficace, populaire. Son efficacité dépendait du cycle de communication de l'analyste, pas de la théorie de Freud. Bizarre, hein? Si vous aviez un bon analyste qui savait communiquer avec le patient, celui-ci allait mieux. Mais c'était un accident vu que les analystes n'avaient jamais étudié la technologie de la communication, ils ne savaient rien dans ce domaine, et qu'ils croyaient avoir affaire à la deuxième dynamique, ce qui n'était pas le cas. C'est drôle, mais vous lisez les comptes rendus de Freud et vous constatez qu'à chaque fois que le patient communiquait un overt, il se rétablissait. Et vous savez que Freud l'a jamais remarqué. Pas mal, hein? La chose est enfouie quelque part au milieu de ses notes, vu qu'il ne met pas l'accent dessus. Et puis il vous donne une explication erronée du rétablissement du patient. Il est donc très difficile de redécouvrir ce qui s'était passé exactement. Je ne cherche pas ici à appliquer la scientologie à la psychanalyse. La psychanalyse est l'un des domaines qui nous a permis de découvrir l'overt. Il semblait que pour chaque rétablissement opéré par la psychanalyse, il y avait un overt. La révélation d'un overt et le rétablissement du patient semblaient aller de pair. Et une étude de ce domaine particulier a donc permis de développer une technologie et d'établir le rôle important de l'overt. Très bien. Mais regardez, regardez. Voici où je veux en venir. D'une façon plutôt tortueuse, je le reconnais. Je vais m'exprimer plus m'exprimer plus... Bing, ça vous permettra de comprendre un peu mieux mon propos. Est-ce que vous vous rendez compte que l'éducation, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, est une technologie corrective, d'une grande complexité? C'est une technologie corrective. C'est absolument pas de l'éducation. Vous voyez, il n'y a aucun effort pour transmettre une idée du point A au point B, ou de l'esprit A à l'esprit B. Par contre, il y a un effort pour empêcher le gars de faire telle ou telle chose, ou pour l'obliger à persévérer d'une façon ou d'une autre, ou encore pour l'obliger à faire ceci ou cela. Autrement dit, le système d'éducation repose sur le fait que l'éducation a d'ores et déjà échoué. C'est pourquoi vous avez cette technologie énorme, et le pauvre bougre qui veut devenir enseignant pourrait aller à l'école pendant des années et des années, tout ce qu'il apprendrait, c'est comment corriger les corrections. Ce n'est pas que ces données soient inutiles. Laissez-moi vous dire que lorsqu'une locomotive a roulé dans le fossé, il est très utile de savoir comment la remettre sur les rails. Une technologie très compliquée, mais qu'il est très utile de connaître. Mais cela ne veut pas dire que la technologie des chemins de fer consiste en tout et pour tout à remettre les trains sur les rails quand ils ont foncé dans le fossé. Car lorsqu'elle est appliquée correctement, les trains restent sur les rails. C'est uniquement lorsqu'elle est appliquée incorrectement qu'il faut employer l'autre technologie. Eh bien, que peut-on dire d'un système d'éducation où les étudiants se suicident un peu partout, comme c'est le cas en France? Je ne vois pas ce que ça vient faire dans l'éducation. L'éducation est probablement rattachée à la survie, d'une façon ou d'une autre, ou quelque chose comme ça. Le domaine de l'éducation doit être compris de travers ou à l'envers. Et vous avez donc les pauvres étudiants en France qui se présentent à l'examen et vous commencez à faire l'appel. Pierre, oh, il est sorti, il a pris du cyanure hier soir, il n'en pouvait plus. Et le taux de suicide est très très élevé. Car apparemment en France, si vous ne réussissez pas un examen comme le BEPC ou le BAC, etc., vous êtes exécuté. Je pense que vous êtes exécuté socialement ou quelque chose comme ça. Et comme la France n'a plus de colonies, ou envoyer les rebuts de la société, vous devez rester à la maison, frappé de disgrâce. Correctif, comme système d'enseignement. Correctif. Regardez un peu la force et la contrainte qu'a dû subir cet étudiant. Une contrainte terrible. Des sanctions horribles. Atroces. Et dans quel but? Eh bien pour qu'il persévère, pour qu'il étudie en vue de l'examen. On ne sait pas, moi, mais je n'ai jamais eu de mal à faire étudier à quelqu'un quelque chose qui l'intéressait. Donc, si dans ce domaine il existe une telle contrainte, que les étudiants sont poussés au suicide, et très souvent, ils perdent la boule en Angleterre et aux États-Unis, s'il faut autant de force que ça pour les inciter à apprendre, alors à mon avis, c'est qu'il doit s'agir d'une technologie corrective qui est appliquée avec force parce que les étudiants n'ont rien compris dès le départ. Maintenant, à votre avis, quel genre de contrainte va-t-on devoir employer pour apprendre au petit Paul ce qu'est la lettre B, alors que la lettre A est déjà un mystère pour lui? Bon, vous êtes habitué à ce genre de choses et vous y remédiez en cherchant la définition des mots, etc., etc. Je parle à un groupe plutôt informé ici. Admettons que vous fassiez passer un examen à quelqu'un et que vous l'interrogiez et que le gars reste bloqué au deuxième paragraphe. Il est incapable d'aller plus loin que le deuxième paragraphe, il ne se rappelle de rien dans ce deuxième paragraphe. Eh bien, votre technologie vous dit que vous devez revenir en arrière et chercher un peu plus haut le mot que vous n'avez pas compris. Et vous allez à coup sûr en trouver un, juste avant le passage où il a eu un trou. Juste avant d'avoir un trou, il a eu un mot qu'il ne comprenait pas. Quand nous revenons en arrière, nous trouvons le mot, nous en cherchons la définition, et nous le clarifions. Et soudain, ô miracle, l'étudiant comprend ce paragraphe. Et bien maintenant, supposons que nous ne clarifions pas le mot, et supposons que nous lui disions qu'il va être expulsé s'il n'apprend pas ce paragraphe. Et puis supposons que nous fassions cela à chaque fois, et que nous répétions cette opération 10 000, 50 000 fois, eh bien je dirais que c'est pour ça que l'enfant de 9 ans est plus bête que l'enfant de 8 ans, que l'enfant de 10 ans est plus bête que l'enfant de 9 ans, que l'enfant de 11 ans est plus bête que, etc., etc., vous voyez ? Autrement dit, il est devenu nécessaire de faire appel à toute cette contrainte parce que les étudiants ne comprenaient rien et qu'ils n'étaient absolument pas éduqués. Ce qui est peut-être mieux que rien. Peut-être. Personnellement, je ne le pense pas. Mais vous pourriez voir les choses de ce point de vue. Et si chaque fois que le gars se heurtait à une difficulté, vous lui donniez des coups de pied avec vos chaussures à clous, ou lui arrachiez les ongles, ou le mettiez dans une cellule pleine de rats et autres tortures médiévales intéressantes, et que vous lui disiez « Si tu ne comprends pas le paragraphe suivant, ton compte est bon, mon pote. » À votre avis, dans quel état va-t-il finir ? Eh bien, il va finir dans un bel état, pas vrai ? Il serait à mille lieues de savoir ce qu'il fait. Il serait à mille lieues du sujet. Et il est certain que pour lui, le sujet serait tout à fait différent de ce qu'il est. Il dirait, eh bien, il y a cette chose appelée physique, et je suis en train de préparer des poids, et la physique n'a évidemment rien à voir avec ces poids que j'essaie de placer sur le comptoir. Ça se terminerait par une non-application du sujet. Le gars devra court-circuiter toute cette contrainte, il devra s'en débarrasser, l'enlever du cercle de sa compréhension, la mettre de côté quelque part, la refouler, et dire, puis zut, à la fin, je vais devoir me forger une opinion tout seul là-dessus. Il faut que je me débrouille tout seul pour m'en sortir. Vous voyez ? Vous l'obligeriez à faire cavalier seul. Et au lieu de l'aider, vous lui auriez enlevé toutes les informations qui auraient pu l'aider. Je dirais donc que le système d'enseignement moderne empêche une personne de se servir de ce qu'on lui enseigne. Cela vous montre donc qu'on peut s'attendre à ce que le QI baisse quand la personne passe un mot mal compris. Ça paraît complètement fou, mais plus vous passez de mots et plus il est impératif que vous connaissiez ces mots, plus vous risquez de devenir bête. Voyez ? Bien sûr, nous avons tout ce qu'il faut pour remédier à cet état de choses. Nous avons la table à modeler, la clarification de mots à la table à modeler, les définitions, etc., etc. Nous parlons donc en connaissance de cause. Mais tout ce que j'essaye de vous faire comprendre ici, c'est que le monde doit être dans un drôle d'état. Prenez les ingénieurs qui construisent les gratte-ciel. Mon vieux, maintenant que j'ai appris toutes ces choses sur l'éducation, eh bien j'espère que ces gratte-ciel ont été construits par des contremaîtres qui n'ont jamais mis les pieds dans une université. Parce que sinon, je m'attends à ce qu'ils me tombent sur la tête. Je ne leur fais pas vraiment confiance. J'ai remarqué qu'ils avaient la particularité dans ce domaine de demander des choses irréalistes, ou d'avoir de la rancune contre le sujet, ou de faire des choses bizarres, ou de laisser tomber, dès qu'il s'agissait d'appliquer ce qu'ils ont appris. Maintenant, voici une autre donnée. À quel point le manque d'éducation affecte-t-il un état ? À quel point le manque d'éducation affecte-t-il un état ? Eh bien, il existe un pays, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, appelée la Russie, qui est partie à la dérive il y a un certain nombre d'années et qui a importé une philosophie allemande appelée le communisme. Et les Russes se sont amusés comme des petits fous avec cette philosophie. Et ce pays essaye néanmoins de progresser et de s'en sortir. Il aurait probablement progressé aussi vite que le monde occidental s'il n'avait pas adopté, cette philosophie squirrel et singulière. Sur une même période, le monde occidental a progressé bien davantage. Lui non plus n'était pas mécanisé en 1917, et il ne fonctionnait pas très bien. Si vous ne le croyez pas, allez dans l'un de ces musées de la machine et regardez les modèles de 1917. Eh bien, voilà une automobile russe moderne. Bon, je ne veux pas être malveillant, c'est vrai, ils ont copié une Jeep, il y a eu des tas de Jeeps en Russie pendant la guerre, ils les ont copiés, mais c'est plutôt des antiquités. Et ce qu'ils essaient de faire en Russie, c'est répandre une civilisation dans un monde asiatique extrêmement arriéré. La Russie est essentiellement asiatique et non occidentale. Et je dirais que malgré tous leurs handicaps, politiques et autres, ils progressent quelque peu. Ils ont une énorme quantité de territoires vierges à conquérir, ils ont toute la Sibérie à conquérir, et ils en sont en fait au stade des pionniers. Il y a des gens qui ont dit, ils entament l'ère victorienne. Et je suppose que c'est vrai. Ils sont très loin derrière. Ils ont presque un siècle de retard sur tout le monde. Et ce n'est pas parce que la Grande-Bretagne leur vend des machines, qu'ils changent les étiquettes et qu'ils les exportent au Japon, qu'ils sont bons dans ce domaine. Ce n'est pas vrai. Ces gars ont d'énormes obstacles à surmonter. Il leur faut surmonter l'ignorance, il leur faut surmonter ceci et cela. Ils ont ces énormes étendues sauvages, ils ont des millions et des millions de gens illettrés et arriérés avec lesquels ils doivent essayer de faire quelque chose. Leurs problèmes sont énormes. Ils essaient de les résoudre au moyen de l'éducation. Et voici le résultat de leur éducation. Vous pouvez bien sûr imaginer ce que ça donne quand un étudiant russe est sous la houlette d'un commissaire russe. C'est plutôt sinistre. Voici les résultats de cette éducation, voici les chiffres. Sur 100 étudiants qui recevaient une formation sur le tas, aux frais du gouvernement et aux frais de l'industrie qui les formait en vue de les mettre sur des postes clés, eh bien, il y en a eu 100 qui sont partis à la fin de leur période de formation sur le tas. Une période de 2 ou 3 ans. 100% des étudiants ont cessé toute activité dans l'usine où ils avaient été formés ou dans le métier qu'on leur avait appris. Dans une autre usine et dans une autre région, 2 étudiants sur plusieurs milliers sont restés à l'usine. Et il ne s'agit pas simplement de chiffres choisis. C'est, selon les estimations, le chiffre qu'on retrouve partout en Russie. Voilà des jeunes gens et des jeunes filles qui ont été éduqués sous la contrainte communiste et qui ont été envoyés dans des usines pour recevoir une formation sur le tas qui allait leur permettre de prendre plus tard un poste dans cette usine. Et à la fin de la période de formation, parce qu'on est plus coulant en Russie ces jours-ci, on leur a permis de décider ce qu'ils allaient faire après. Et ils sont tous partis. Voilà ce qu'ils ont choisi de faire. Maintenant, si vous connaissez l'éducation, et vous connaissez notre technologie de l'éducation à présent, vous verrez tout de suite ce qui a dû se passer exactement. Dès la maternelle, l'étudiant russe a été pris dans le piège de la réévaluation des mots, une pratique que les communistes adorent. Le truc préféré des communistes, c'est, ce n'est pas de changer le vocabulaire, mais de lui donner un sens différent. Ils changent le sens des mots, en leur donnant un sens plus ou moins voisin du sens premier, puis soudain la personne découvre que le mot veut dire tout à fait autre chose. Vous en avez un exemple dans 1984 de Orwell. Vous y trouvez de merveilleux changements sémantiques, de merveilleuses modifications du sens des mots. Liberté égale esclavage, vous savez. Même Roosevelt a joué à ce petit jeu. Pendant longtemps, nous avons eu la liberté. Tout le monde savait ce que liberté, être libre, voulait dire. Roosevelt en a fait liberté par rapport à. Libéré de. Vous étiez libéré de. Il y avait la liberté par rapport à. Voilà le genre de liberté pour lequel nous nous battions du temps de Roosevelt. Nous nous battions pour des libertés par rapport à. Eh bien, c'est une façon intéressante de voir les choses. Liberté par rapport à quelque chose implique que vous devez combattre ce quelque chose. Donc, que vous ne pouvez pas exercer votre liberté par rapport à ce quelque chose. Liberté veut dire liberté. Ça ne veut pas dire s'opposer à une chose et la repousser. Ou bien avoir peur qu'elle vous tombe à nouveau dessus, ou encore travailler jour et nuit pour qu'elle ne vous arrive pas. C'est pas ça, la liberté. Donc, voilà un changement sémantique. Maintenant, bien sûr, les Russes avaient toute cette population asiatique, cette masse énorme de gens, 200 millions, qui constituait l'une des populations les plus grandes de la Terre et qui se composait d'un tas de groupes qui avaient leur propre langue et leur propre culture. Le Russe a fait main basse sur ces peuples et lui a alors fallu tout changer pour établir une homogénéité et les amener à travailler ensemble. Il a dû réévaluer tous leurs mots. Et c'est ainsi que nous découvrons en 1964 qu'il a perdu sa révolution. Comment a-t-il fait pour la perdre? Eh bien, il donne une éducation à plusieurs milliers de jeunes afin que ces derniers puissent diriger le projet du fleuve Pujas et devenir chef de chantier et administrateur, ce qui leur permettra à eux aussi de rouler dans des Ford Model T, etc. Et à la fin de leur formation sur le tas, ils quittent tous le projet du fleuve Pujas. Ce qui veut dire que le Russe ne va pas avoir de gens pour diriger des projets. Nous possédons maintenant en scientologie des données qui, chose bizarre, ont beaucoup intéressé le vieux Staline en personne. En effet, il avait flairé leur existence Dans les recherches que je poursuivais à l'époque, j'étais en rapport avec Amtorg en 1938, et la question que je me posais était la suivante. Comment faites-vous pour évaluer l'aptitude relative d'une personne à travailler? Comment faites-vous pour trouver qui produira plus que qui? Voilà ce que j'étudiais à l'époque, et j'ai découvert des choses très révélatrices. J'étais très très content de ces découvertes, et elles sont arrivées aux oreilles du club des explorateurs, qui les a fait connaître à droite et à gauche. Si bien que j'ai dû soudain me déguiser en courant d'air pour ne pas me faire embarquer sur ce bateau qui partait pour la Russie et aller discuter du sujet avec Staline. Staline avait des problèmes. Il se faisait du souci en 1938. Beaucoup de soucis. Il cherchait de l'aide à droite à gauche. Mais quelle était la technologie qui lui manquait? Eh bien, c'était la technologie suivante. Comment faites-vous pour amener les gens à comprendre telle ou telle chose, et comment amenez-vous les gens à accomplir des choses? Voilà les deux domaines qui lui échappaient. Comment fait-on pour amener les gens à comprendre les choses, et comment fait-on pour amener les gens à accomplir des choses? Eh bien, Staline pensait avoir résolu le problème « comment amener les gens à accomplir des choses ?» Beaucoup de fusils mitrailleurs, beaucoup de murs, et beaucoup de gens devant qui servaient d'exemple. Comme ça, les gens travaillaient. Sauf que vous ne pouvez pas agir ainsi indéfiniment. Tôt ou tard, ce genre de jeu doit cesser, faute de participants. Et lorsque vous vous y prenez de cette manière dans le domaine de l'éducation, vous allez très vite manquer de gens éduqués. Ils deviennent de plus en plus stupides et de plus en plus stupides. Et je pense donc que la classe oisive et la haute société anglaise a été balayée et corrompue, non pas par une quelconque révolution politique, mais tout simplement parce qu'on les a abrutis d'éducation. Je pense qu'en fait, ils sont devenus trop stupides pour tenir des postes. Ça donne matière à réflexion, non? Je veux dire, c'est une classe qu'on éduquait à mort. Ils étaient obligés d'aller à l'université. Évidemment, quel a été le résultat? Eh bien, à la Chambre des communes, il y avait tout un tas de gens qui n'avaient pas été obligés d'aller à l'université, et la naissance a donc fini par ne plus jouer aucun rôle. Les gens qui n'avaient pas été à l'université étaient plus intelligents que ceux qui y avaient été. Et c'est pourquoi ces derniers ont perdu. Je veux dire, c'est pas très difficile à comprendre. Voilà ce qui a dû se produire. Et nous pouvons donc en tirer une autre loi. Nous pourrions dire qu'une culture ne se perpétuera que si elle possède une technologie de l'étude. La Russie va perdre sa culture. Nous avons l'exemple de la haute société anglaise qui, pour être passée par Oxford, a sombré dans l'oubli. Ce ne sont pas les exemples qui manquent. Regardez autour de vous, la face du monde est en train de changer. Et chose étrange, le futur de la race humaine dépend essentiellement des gens. Et si vous ne formez pas des gens de valeur, vous allez avoir des problèmes. Et si dans le domaine de l'enseignement, vous ne possédez pas de technologie de l'étude, alors vous allez avoir cette situation où ce pauvre gosse à la maternelle se heurte à des choses qu'il ne comprend pas, et puis on le menace de redoubler ou d'être fusillé ou de l'une de ces sanctions qu'on applique à la maternelle aux gosses s'ils ne mettent pas leur cube dans la bonne pile. Et puis l'enfant commence le cours préparatoire et on lui montre le mot chat et il dit tâche, et tout le monde prend un air attristé et l'instituteur fait les 100 pas dans la classe et écrit un mot aux parents. Et le père reste prostré en se tenant la tête entre les mains pendant une demi-heure. Vous voyez ? Voilà la procédure standard acceptée. Qu'est-ce que tu vas devenir ? C'est la question brûlante qu'on laisse planer dans les airs. Tu ne réussiras jamais dans la vie. Et ainsi de suite. Pourquoi doivent-ils employer tant de force ? Parce qu'ils ne savent pas comment faire pour que l'enfant dise « chat » au lieu de « tâche ». Et vous avez donc cette pression énorme à l'école, toute cette technologie scolastique, sur la façon de maintenir un enfant dans les rangs. Puis vous engagez de grosses forces de police partout dans la nation pour le réprimer quand il devient adolescent. Et là, qu'est-ce que vous pouvez vous amuser? Ça vous donne les modes et les rockers et consorts. On leur a bien sûr tellement bien appris qu'ils n'ont leur place nulle part, que c'est exactement ainsi qu'ils se conduisent maintenant. Ils se conduisent comme s'ils n'avaient leur place nulle part. Ils ne possèdent rien. Et voilà, C'est très intéressant d'observer un jeune garçon qui se retrouve brusquement soutien de famille ou quelque chose comme ça à l'âge de 10, 11 ou 12 ans. Très intéressant. Vous pouvez encore trouver ce spécimen aujourd'hui, malgré les lois sur le travail des enfants. Et il ne ressemble en rien à l'adolescent moderne. Et il ne lui ressemblera pas parce qu'il a déjà été aux prises avec cette chose qu'on appelle la vie. Voyez-vous ? Et il lui a fallu survivre tant bien que mal, et il n'a pas eu le temps qu'il faut pour aller à l'école et être rendu stupide. Et il risque de très bien réussir dans la vie. Il est fort probable que quelque chose d'aussi bizarre et d'aussi imprévu que cela lui arrive. Ils essaient d'instaurer paix et ordre dans les écoles, alors que toutes leurs actions contribuent à créer le désordre et des activités illégales. Toutes les actions dans les écoles contribuent à créer le désordre. Et Mademoiselle Pincenez, à l'école communale du 22e arrondissement, serait bien la dernière personne au monde à se lever pour en assumer la responsabilité. Oh, mais nous faisons de notre mieux. Oui, vous la voyez d'ici, vous savez. Oh, mais nous faisons de notre mieux. Mon Dieu, pourquoi n'accroche-t-il pas un écriteau « Fabrique de jeunes délinquants » sur la porte ? Très bien, donc, une fois de plus, nous faisons cette expérience en Dianétique et en Scientologie, nous faisons l'expérience de nous heurter à un domaine de la société qui, soi-disant, possède une technologie alors que ce n'est pas le cas. Non seulement cette technologie est inexistante, mais on nous fait croire qu'il y en a une. Maintenant, je ne crois pas que vous rencontrerez trop de problèmes ici. Je ne pense pas qu'il y aura trop de problèmes, mais j'en prévois quand même quelques-uns. Tout ce que nous allons écrire sur le sujet sera tôt ou tard remis en question dans certains cercles, mais ce n'est pas un domaine codifié qui rapporte beaucoup d'argent. L'enseignement n'est pas vraiment un trust, car il ne rapporte pas assez d'argent. C'est à peu près la seule raison pour laquelle ce n'est pas un trust. Par contre, il y a des intérêts à défendre en médecine et en pharmacie, vu qu'elle rapporte de l'argent à quelqu'un. On se battra pour l'empire des médicaments et pour l'empire de la médecine, qui rapporte des milliards de dollars, on se battra pour eux jusqu'au dernier stéthoscope, voyez ? Ces gars-là seront, je veux dire, dans 20 ou 30 ans, il se trouvera toujours quelqu'un qui essaiera de nous créer des ennuis. Vous savez, il va faire... Et vous dites, il y a un mot en médecine que vous ne comprenez pas ?
Si, je comprends tous les mots en médecine.
Bon, eh bien, il y a un mot en dianétique et en scientologie que vous ne comprenez
pas. Si, je comprends tous les mots en dianétique.
Alors qu'est-ce qui ne va pas ?
Je suis sur la paille.
Eh bien, l'enseignant ne gagne presque rien. Et l'entrepreneur qui construit les écoles se moque pas mal de ce qui est construit dans ces écoles qu'on lui a donné à construire. Et l'État n'a pas vraiment envie de déverser tout cet argent parce que les enfants ne votent pas. Ce n'est pas un secteur où vous pouvez acheter beaucoup de votes. Vous pouvez dans une certaine mesure acheter les votes de leurs parents, mais les gens ne rattachent jamais vraiment l'école à l'administration. Ils ne voient jamais vraiment le lien. Donc vous ne vous heurterez pas à de gros intérêts ici. Et je suis persuadé que c'est un domaine dont nous pouvons faire qu'une bouchée, car personne ne l'a jamais considéré comme lucratif. Que le domaine soit lucratif ou non, ce n'est pas ça que nous regardons. Mais ils ne le défendront pas parce qu'ils ne le considèrent pas comme lucratif. Si la médecine n'était pas un domaine si lucratif à l'heure actuelle, nous n'aurions aucune difficulté à prendre possession du domaine de la guérison. C'est simplement à cause de tous les intérêts qu'elle a à défendre que l'opposition ne cesse d'aboyer. Je dis cela sans aucune amertume. Je dis cela après avoir mûrement considéré la question. Le domaine de l'éducation n'est pas aussi lucratif, donc je pense qu'un livre bien fait, qui va de A jusqu'à Z, sans critiquer qui que ce soit et sans descendre personne en flamme, un livre qui parle simplement du sujet en commençant par le commencement, ce sera plutôt difficile d'écrire le chapitre qui explique comment vous pouvez faire baisser le QI de quelqu'un, parce qu'il y aura toujours des gens qui se sentiront visés. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer sous silence, car il s'agit d'un élément de la technologie qu'il est indispensable de présenter. Cependant, il sera présenté avec suffisamment de tact pour que les gens ne le contestent pas. Et vous allez alors soudain vous retrouver dans un autre domaine. Mais cet autre domaine n'a rien d'étranger pour vous. Voyez, votre domaine, c'est de rendre les gens plus intelligents. Auditer les gens, les rendre clairs, et ainsi de suite. Eh bien, voilà qui va la main dans la main avec ce type particulier d'activité. De plus, Vous devez enseigner la scientologie aux scientologues, et vous avez donc besoin de la technologie de l'étude. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai développé cette technologie au départ, pour qu'il soit plus facile d'enseigner la scientologie à un nombre de plus en plus grand de scientologues. Voilà pourquoi je l'ai développé. Vous allez voir, l'usage de cette technologie ne se limitera pas à la scientologie. Maintenant, si nous n'assumons pas une certaine responsabilité en ce qui concerne sa diffusion, nous risquons d'avoir plus de problèmes que si nous nous contentions de la publier en laissant les choses suivre leur cours sans intervention de notre part. Donc ce n'est pas un petit livre que je vais publier sur le sujet. Il va me falloir publier un texte très spécifique, et vous constaterez, je pense, à mesure que cette technologie se répandra, que vous devrez, dans votre région, faire le nécessaire pour que les enseignants puissent venir le samedi et le dimanche, ou quelque chose comme ça, assister à des conférences sur le sujet. Et vous verrez, je pense, que ce type d'activité aura tendance à s'écarter très nettement de toutes vos autres activités. Vous allez dire, assez faiblement, vous savez, nous pouvons élever le QI des gens. Qu'est-ce que vous disiez à propos de... Et on vous posera une question concernant l'éducation, voyez. Et vous dites, bien, voyez-vous, vous pouvez auditer quelqu'un pour le... Oui, mais quand vous enseignez quelque chose à un enfant, est-ce que vous... Vous allez dire, zut à la fin, qu'est-ce qu'il veut au juste? Eh bien, je pense que vous finirez par découvrir ce qu'il veut. Il veut tout savoir sur l'éducation. Et vous feriez bien de le laisser découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur l'éducation, avant de lui indiquer qu'il a en réalité pénétré dans le royaume de la philosophie. Et je ne pense pas qu'il puisse emprunter d'autres chemins pour pénétrer dans ce royaume. Parce que l'étude de l'éducation constitue l'étape intermédiaire entre le niveau 0 et le niveau 1. Entre les deux, vous avez cette chose appelée éducation. Et voilà le fait de première importance que nous avons pu établir et qui nous concerne directement, nous autres scientologues. Toutes les autres ramifications, toutes les autres complexités de l'éducation, eh bien nous n'y attachons pas trop d'importance. Donc la société russe ne sera pas capable de se perpétuer. J'ai bien peur que ça me laisse de marbre. Donc elle ne sera pas capable de se perpétuer dans l'histoire. C'est bien malheureux, j'en pleure déjà. Les autres régimes politiques ne survivront pas non plus. Eh bien, je crains fort qu'avec les sentiments que j'éprouve pour ces types, je ne les aiderai même pas à se relever s'ils devaient trébucher sur leur ombre. Ils ne valent pas un clou. Par contre, les gens ont de la valeur, et leurs systèmes n'en ont pas. Maintenant, quand leurs systèmes sont bâtis sur des mensonges, cela veut donc dire que leurs systèmes sont destructifs. Et le système de l'enseignement, tel que je le vois, c'est-à-dire uniquement composé de contraintes, visant uniquement à écraser l'individu et regorgeant de mensonges, eh bien c'est pour moi la chose la plus destructive, ou presque, qui puisse exister. Pour moi, c'est très dur de devoir supporter ce genre de système. Et c'est complètement inadmissible. Mais vous allez vous retrouver en plein dans ce domaine, et ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est n'allez pas croire, parce que vous ne pouvez pas leur parler auditing pendant qu'ils étudient l'étude, n'allez pas croire que vous les avez conduits dans un autre domaine. Rendez-vous compte que vous les avez menés de l'extrémité supérieure du niveau 0 jusqu'à la porte d'entrée du niveau 1. Rendez-vous compte que c'est une étape indispensable. Ces gens ne sont même pas assez intelligents pour le moment pour se demander comment il se fait qu'ils aient cette technologie. Vous savez, ils rattachent cette technologie à quelque chose de complètement différent. Donc, quand vous allez voir un de ces groupes pour lui parler, vous lui dites « Eh bien, l'étude, ça consiste à blablabla, et on pourrait augmenter le QI de votre enfant, non pas le faire baisser, votre enfant pourrait devenir plus intelligent, quelque chose comme ça, eh bien, vous pourriez avoir moins de troubles dans votre école. » Ou encore, à un groupe de policiers, « La délinquance juvénile est causée par un mauvais enseignement, un bon enseignement réduirait la délinquance juvénile. » Voilà des propos qui leur feront plaisir, mais ils seront très heureux de coopérer avec vous sur ce terrain particulier. Et inutile de dire autre chose. Ils ne se demanderont jamais vraiment « Comment diable, cette personne sait-elle tout ça ?» Ouais, d'où lui viennent toutes ces informations. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? À moins, bien sûr, qu'elle ne soit complètement en rupture d'ARC, ce qui est l'autre extrême. Mais il ne leur vient jamais vraiment à l'esprit de se demander, dans un éclair d'intelligence, où tout cela vient-il se placer dans ce corps d'information ? Tout au long du livre, il est dit que tout cela fait partie d'un corps d'information appelé la scientologie, mais on ne donne pas d'autres explications. Et tout le monde sait ce que veut dire scientologie, ça veut dire évidemment étude de la science. Ah, d'accord. Bon. Bien. Voyez, il n'y penserait pas. Et pourquoi n'y penserait-il pas ? Eh bien, je veux que vous compreniez bien cette petite donnée. Ils sont incapables de penser. Vous voyez ? Vous demandez pourquoi un gars avec un bandeau sur les yeux n'y voit rien, comprenez ? Ce dont vous n'êtes pas rendu compte chez cet individu, c'est sa caractéristique fondamentale, à savoir qu'il n'y voit rien. Et vous vous demandez alors pourquoi Jean et Pierre ne voient-ils pas telle et telle chose ? Voyez-vous, vous vous posez une question trop complexe. Vous vous demandez pourquoi Pierre et Paul ne voient-ils pas telle chose, telle chose, telle chose et telle chose ? Et pourquoi discutent-ils tout le temps ? Eh bien, votre question est trop complexe. Vous posez cette question parce que vous ne vous êtes pas rendu compte qu'ils sont incapables de voir. Vous me suivez ? Vous demandez pourquoi ne voient-ils pas telle chose ? Alors que la question fondamentale est tout simplement pourquoi ne voient-ils pas du tout ? Eh bien, ils ne voient pas, ils sont incapables de voir quoi que ce soit parce que l'éducation qu'ils ont reçue les a rendus stupides. Vous êtes en train de parler à des aveugles, un point et tout. Et comment vous adressez-vous à un aveugle ? En faisant très attention, en faisant preuve d'habileté. Vous savez que ce gars est aveugle, donc vous allez évidemment, vous voyez, il est assis là, il ne voit rien, et vous essayez de lui parler du jardin de roses que vous apercevez par la fenêtre. Eh bien, vous ne lui diriez pas, espèce de sombre abruti, pourquoi tu regardes pas par la fenêtre pour le voir, ce jardin de roses ? Ce n'est pas ça que vous diriez à un aveugle. Il vous faudrait réfléchir un peu et dire, par exemple, « Eh bien, à ta droite, il y a un certain nombre de fenêtres. Peut-être sens-tu le courant d'air frais qui vient de cette direction de temps en temps ? Eh bien, ce sont les fenêtres. Et puis, il y a la lumière qui rend les choses visibles et qui se projette de telle manière qu'il est possible de voir des choses qui se trouvent derrière d'autres choses. » Disons que tu tiens tes deux mains l'une contre l'autre, comme ceci. Eh bien, la lumière tomberait sur la première main, mais pas sur la deuxième. Tu verrais donc la première main, mais pas la deuxième, vu qu'il n'y a pas de lumière sur cette deuxième main. Maintenant, si tu les tiens comme ça, tu pourras le sentir. Et petit à petit, vous faites pénétrer cela dans son expérience, voyez ? Il vous faudra réfléchir un petit moment. Comment vais-je faire pour que ce gars comprenne qu'il y a un jardin de fleurs dehors ? Vous y allez, étape par étape, vous dites. Eh bien, dehors, à l'extérieur de la fenêtre, il y a beaucoup d'espace. La dernière fois que tu es sorti de la pièce, tu as pas mal marché avant d'arriver à une autre porte. Eh bien, tout ça, c'était de l'espace, et c'était dehors. Et tu as remarqué que parfois la pluie te tombait dessus, quand tu te trouvais dans certains espaces, mais qu'elle cessait de te tomber dessus quand tu te trouvais dans d'autres espaces. Comprenez ? Et c'est comme ça que vous abordez la chose. Eh bien, à l'extérieur des fenêtres, dehors, il y a un grand espace. Et puis vous allez probablement vous rendre compte, mon Dieu, il va falloir que je lui explique ensuite l'esthétique de la couleur. Bah, voyons voir, comment vais-je m'y prendre ? Bon, très bien, soyons braves, allons-y, tentons le coup. Vous voyez ce que je veux dire. Et finalement, le gars dirait « Ouais, ouais, ça y est, je sais ce que c'est un jardin de fleurs. Vous auriez vraiment communiqué quelque chose parce que vous êtes rendu compte au départ que vous vous adressiez à un aveugle. Mais quand vous n'arrivez pas à communiquer, c'est parce que vous commettez une erreur énorme, affreuse. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous adressez à un aveugle. Et quand vous commencez à parler de la scientologie aux gens, vous êtes en fait au-dessus du niveau auquel vous devriez leur parler. Quelqu'un dit, dans ce nouveau cours de PE, comment faites-vous pour établir l'ARC ? Eh bien, vous ne l'établissez pas. L'ARC est d'un niveau trop élevé, c'est très avancé. Vous devez prendre quelque chose de plus élémentaire. Vous devez leur faire comprendre ce qu'est une donnée, Vous devez leur faire comprendre qu'il existe des données. Vous devez leur faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent apprendre. Ça paraît incroyable, mais voilà la clé dont vous vous servez pour leur ouvrir la porte d'entrée. C'est ensuite que vous pouvez leur faire comprendre qu'il existe des connaissances. Parce que 99% des gens auxquels vous vous adressez ont fait l'expérience suivante. La technologie qu'on m'a enseignée ne marche pas. La plupart d'entre eux n'espèrent plus aucun résultat, même s'ils connaissent leur technologie. Ils ne sont donc pas capables d'exercer cette petite poussée supplémentaire qui la fera fonctionner. C'est à cause de ça que vous avez tous ces échecs. À cause de cette petite poussée supplémentaire qui n'est pas exercée. Ils ont abandonné tout espoir. Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils ont abandonné tout espoir de voir quelque chose marcher, vu que rien n'a jamais marché. C'est pourquoi ils n'ont absolument aucune idée de ce qu'est la connaissance. Pour les gens, la connaissance, c'est du bidon. Si vous leur demandiez de décrire la connaissance, c'est probablement ça qu'ils vous répondraient. Eh bien, ces gens ne savent pas qu'il y a quelque chose à savoir. Regardez un peu l'arrogance des médecins. Pour eux, il n'y a rien à apprendre sur le mental ou l'esprit ou la guérison. C'est pas la peine de s'attarder dessus, vous savez. Qu'est-ce qu'ils peuvent être arrogants ? Ils n'obtiennent pas de résultats, mais ils croient avoir tout résolu. Eh bien, d'où ça vient après vous ? Sinon du latin. Imaginez un peu, vous voulez apprendre à quelqu'un à traiter le mental humain et vous lui dites d'aller faire un tour dans le domaine voisin pour y cueillir des mots d'une langue morte qui ne ressemble à rien, qui ne ressemble en rien à ce qu'il a pu voir jusqu'ici. Et puis vous lui dites, voilà par quoi tu dois commencer avec le corps humain. Et vous demandez ensuite pourquoi le gars finit par découper des corps humains et zigouiller les gens avec tant d'enthousiasme. C'est inévitable. On lui dit, voici un tibia. Et il cherche où se trouve le tibia. Tibia, un mot qu'il a trouvé dans son lit. En fait, l'éducation est de pire en pire. Récemment, en désespoir de cause, la Grande-Bretagne a opéré un renversement spectaculaire dans le domaine de l'éducation. Les journaux n'en ont pas parlé, et vous n'êtes probablement pas très bien renseigné sur la question. Vous en avez sans doute entendu parler. Mais moi, j'ai obtenu tous les renseignements et toutes les nouvelles fraîches sur la question parce que je cherchais une école pour Quentin. Qu'est-ce qu'il devait faire pour résoudre tel et tel problème. Donc, bien sûr, c'est moi tout craché, j'ai contacté toutes les personnes possibles et imaginables sur le sujet, et j'ai obtenu tous les renseignements. Toutes sortes de données intéressantes me parviennent. Dans 4 ans, les universités britanniques n'emploieront plus le système selon lequel l'étudiant doit décrocher un diplôme pour pouvoir s'inscrire dans une haute école. Les responsables de l'enseignement ne veulent plus en entendre parler. Pour eux, ce système est un fiasco, et ils ne veulent plus en entendre parler. Et ils vont invariablement vous dire, vous voulez savoir quel est le nombre d'inscriptions auxquelles nous attendons en 1968. Eh bien, nous aimerions bien le savoir. Mais une chose est certaine, ont dit quelques-uns d'entre eux, les cours auxquels on peut s'inscrire maintenant n'existeront plus. C'est l'éducation sandwich dont ils se servent aujourd'hui dans tous les domaines techniques. Ils disent, les arts, on s'en fiche. Les langues mortes et les diplômes pour des sujets désuets, on s'en fiche. Par contre, nous avons découvert que nos ingénieurs ne savaient pas construire de pont, et nous allons y remédier, et sérieusement. C'est le tohu-bohu général dans le domaine de l'éducation, nous sommes en train de le mettre en pièces. Et toutes les grosses sociétés, le gouvernement, les conseils municipaux, et tous ceux qui peuvent exercer une influence, sont en train de réduire en miettes tout ce qui ressemble de près ou de loin à l'enseignement de l'ingénierie tel qu'il était dispensé dans le passé en Grande-Bretagne. Ils sont en train de le jeter au panier un peu partout. Ils ont découvert que la salle de classe n'était pas l'endroit où on pouvait former des ingénieurs et que l'avenir de cette culture dépend entièrement de la qualité de leurs ingénieurs. Ils ont pris conscience de ce fait et ils sont donc en train de tout réformer. Et en 1968, tout aura changé. Les étudiants iront 6 mois à l'école, puis travailleront pendant 6 mois. Voilà ce qui va leur arriver. Ils vont aller 6 mois à l'école et travailler pendant 6 mois. Et ils auront sacrément intérêt à bûcher leur sujet, sinon ils ne pourront pas s'inscrire. On a donné un tout nouveau visage au domaine de l'éducation. Eh bien, il s'agit d'une mesure corrective, qui équivaut à un constat d'échec on a pris conscience que les méthodes d'enseignement ont échoué. Mais c'est une mesure corrective qui va dans la bonne direction. Et il se pourrait même que nous y soyons pour quelque chose. Parce que, vous rappelez, nous avions énormément d'étudiants à Londres qui étaient enseignants, et c'était notre idée qu'il fallait être familiarisé avec les choses et ainsi de suite. Il se pourrait que nous jouions un plus grand rôle que nous le croyons dans l'évolution de la culture. Peut-être pourrions-nous le surestimer, mais je pense que d'habitude nous le sous-estimons. Je vois beaucoup de choses de ce genre. L'autre jour, j'ai vu quelque chose qui sortait tout droit de nos manuels. Ah oui, c'était... Quelqu'un avait tracé sur un graphique le profil de Home, de Heath et de Monsieur George quelque chose, je ne me souviens plus de son nom. Enfin, toujours est-il qu'on avait imprimé leur profil dans le Guardian et que c'était notre test d'analyse de la personnalité qu'on avait employé. Ils ont représenté le profil de ces gars sur le graphique de notre test d'analyse de la personnalité, mais avec un certain altérisme. Ils n'ont pas fait passer le test, il n'y a qu'un psychologue pour faire ça, ils n'ont pas fait passer le test aux pauvres Home, Heath, Wilson et consorts, vous voyez. Ils sont allés voir quelques étudiants pour leur demander ce qu'ils pensaient de ces bons hommes, et c'est de là qu'ils ont tiré leurs résultats. Et puis ils ont dit partout que c'était le graphique de ces gens. Intéressant, non? Il n'y a qu'en psychologie qu'on agit comme ça. Prenez ce que je veux dire. Ils demandent à quelques personnes de donner leur opinion. Ils leur demandent si ces hommes politiques sont comme ci ou comme ça, ou s'ils sont en haut du graphique ou en bas. Et puis ils notent ce qu'ont dit ces personnes, et ils le publient en disant que voilà la personnalité de ces gars. Je trouvais ça fascinant. Mais il demeure que c'était bien notre graphique que j'avais devant les yeux. Nous nous sommes si bien infiltrés dans le domaine de l'esprit et du mental qu'ils sont déjà sortis par la porte de derrière pour aller jouer dans la cour, et ils ne se rendent même pas compte que nous sommes assis dans le salon en train de nous tourner les pouces. Voilà à peu près la situation, du point de vue connaissance et maîtrise, et du point de vue technologie. Nous sommes un groupe très irréel pour ces gens. Et nous sommes irréels parce qu'ils considèrent toute nouvelle connaissance comme irréelle, voyez. Ils savent instinctivement qu'il existe des connaissances quelque part. Et quand nous leur parlons, ils sont conscients que nous disons la vérité. Mais cette prise de conscience est plus ou moins inconsciente, si je puis dire. Ils ne font pas vraiment le rapprochement. Ils se sentent plus ou moins traqués. Et nous les rendons nerveux. À vrai dire, notre pouvoir sur ce genre de personnes est assez extraordinaire. C'est un pouvoir quasi hypnotique. Mais c'est plutôt curieux. Ils savent que vous dites la vérité, mais ils ne sont pas tout à fait capables de vous associer à ce que vous avez dit, ce qui fait que les mots que vous prononcez quand vous leur parlez sont pratiquement engrammiques. C'est très curieux. La scientologie pourrait de cette manière mettre toute la société sous une sorte de joug, sans forcer. Mais ce n'est pas ça que nous essayons de faire. Voici comment vous devez procéder. Il vous faudrait amener la personne à un point où elle est à même d'apprendre. Voilà comment vous y prendriez pour amener quelqu'un en scientologie, vous la rendriez capable d'apprendre, et vous lui montreriez qu'il y a quelque chose à étudier. Et puis vous lui montreriez qu'il existe un ensemble de connaissances sur l'étude, et ensuite vous lui montreriez qu'il y a un ensemble de connaissances à étudier. Voilà à peu près l'ordre à suivre si vous voulez être gagnant. Et vous n'avez jamais vraiment essayé cette approche particulière. L'approche que vous adoptez habituellement avec un individu, c'est « nous pouvons vous aider, nous pouvons vous rendre plus intelligent, nous pouvons faire ceci et cela pour vous, nous pouvons faire de vous une personne en bonne santé. » Nous avons essayé de lui parler, ainsi de suite, alors que nous parlons à quelqu'un qui est incapable d'apprendre. Très bien. Évidemment, si cet individu est incapable d'apprendre, il ne sera même pas capable d'assimiler les mots que vous lui adressez. Il est donc dans un état de non-réceptivité. Ce n'est même pas que nous lui parlions inintelligemment ou d'une façon incompréhensible, c'est tout simplement qu'il ne reçoit rien. Et si d'une façon générale, il est incapable d'apprendre, il ne recevra même pas votre phrase. Donc ce n'est pas que votre approche échoue, c'est qu'elle ne lui parvient pas. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est amener la personne à un point où ce que vous lui dites lui parvient. Et commencez par la première étape. Vous l'amenez à un point où ce que vous lui dites lui parvient. Eh bien, le gars sera très heureux d'apprendre qu'il existe des façons d'étudier. Il sera très heureux de l'apprendre. Il sera très heureux d'apprendre qu'il existe des méthodes pour élargir ses connaissances sur le monde et sur les choses. Mais d'emblée, évidemment, vous savez que vous avez affaire à un problème de temps présent. Il y a beaucoup de choses qui lui créent des problèmes, et s'il pouvait apprendre davantage de choses sur ces problèmes, il pourrait les résoudre. Donc, obligatoirement, quand vous parlez à la personne, vous vous heurtez à l'un de ses problèmes de temps présent. Vous comprenez ? Ces problèmes de temps présent, les plus importants, sont liés au fait de ne pas savoir. Vous voyez, s'il en apprenait davantage sur les femmes, il n'aurait pas autant d'ennuis avec son épouse. Je veux dire, prenons quelque chose d'aussi élémentaire que cela. Mais bien sûr, il ne lui vient jamais à l'esprit qu'il existe une méthode pour apprendre qu'il ne connaît pas. Aussi, s'il apprenait qu'il existe une méthode pour en savoir davantage sur les femmes, ou sur n'importe quel autre sujet, ou bien qu'il existe une approche pour recueillir des informations, ou pour devenir plus cultivé dans certains sujets, eh bien il se rangerait immédiatement à vos côtés, parce qu'il pourrait ainsi résoudre ses problèmes de temps présent, non pas par le truchement de l'auditing, mais par le truchement de l'éducation. Vous dites, eh bien vous pouvez faire quelque chose pour votre vie, il y a encore de l'espoir. Comment ça? Eh bien vous pouvez en apprendre davantage sur la vie. C'est vrai? Et ne dites pas, vous pouvez devenir plus intelligent, ou quoi que ce soit d'autre. Dites simplement, vous pouvez apprendre davantage de choses sur ce qui se passe autour de vous. C'est vrai? C'est intéressant, ça. Comment vous faites? Eh bien, il y a des techniques, différentes techniques, qui permettent d'en apprendre davantage sur les choses, des techniques tout à fait surprenantes, et l'une d'elles consiste à observer. Sans blague. Bien, voyez à quel point ça peut devenir fondamental. Vous observez. Vous dites qu'il faut être malin pour enseigner ce genre de choses à quelqu'un? Non. Contentez-vous d'être évident. L'observation. Grâce à l'observation, vous... Bien, maintenant vous me dites que vous voulez en apprendre davantage sur votre femme. Très bien, c'est un bon exemple. Est-ce qu'il vous est déjà venu à l'idée d'observer votre femme? Non. Très bien. Eh bien, je vais vous dire ce que vous allez faire. Votre première leçon pour apprendre à étudier consiste simplement à apprendre à observer. Apprenez à regarder quelque chose. C'est tout. D'accord ? Mais comment vous faites pour regarder quelque chose ? Eh bien, laissez-le se dépatouiller tout seul. Comment regardez-vous quelque chose ? Eh bien, vous le regardez, bon sang. C'est ça que vous faites. Et c'est ça qu'il finira par faire. Comment doit-il s'y prendre pour regarder quelque chose ? Eh bien, il doit le regarder. Et voilà sa première leçon. Il pensera qu'il y a des méthodes, des trucs pour regarder les choses. Est-ce que vous les regardez à travers des verres colorés? Est-ce que vous les regardez en louchant? Est-ce que vous vous servez des yeux? Toutes sortes de choses vont lui trotter dans la tête. Laissez-le résoudre ce problème. Comment faites-vous pour observer quelque chose? Eh bien, laissez-le élaborer des systèmes d'observation. S'il veut en savoir davantage et avoir moins de problèmes avec sa femme, eh bien, il ferait mieux d'apprendre à observer sa femme. Donc voilà l'une des méthodes fondamentales pour régler sa vie privée et ses affaires. Quelque chose d'aussi évident que le nez au milieu de la figure. Il apprendra toutes sortes de choses qui ne lui étaient jamais venues à l'esprit. Il considère l'observation comme une chose bien établie. Vous aussi, vous supposez que l'observation, c'est quelque chose qui va de soi. Vous dites, deux personnes vivent ensemble, elles se regardent. La seule fois où une femme regarde son mari, c'est quand il rentre à la maison avec du rouge à lèvres sur la joue. Le rouge à lèvres, ça, elle est capable de le voir. Elle s'en met tout le temps. En fait, elle s'était mis ce rouge à lèvres le matin, avant qu'il n'aille au travail, mais elle ne s'en souvient plus. Et elle a donc une raison pour divorcer maintenant. Il est rentré à la maison avec du rouge à lèvres sur le visage. Et le hasard a voulu que personne, au cours de la journée, ne lui dise qu'il avait du rouge à lèvres sur le visage, vous voyez ? Mais elle est capable d'observer le rouge à lèvres sur son visage. Point final. Puisque nous parlons d'observation, eh bien dans les grandes villes, vous pouvez employer quelques-uns des trucs les plus extraordinaires pour démontrer que les gens n'observent pas. Les choses les plus dingues passent inaperçues dans les grandes villes. Ne me croiriez pas. Ça me rappelle une farce très amusante que j'avais l'habitude de faire pour prouver la chose. Une farce qui présentait de nombreux avantages. Je disais à une fille, chaque fois que je descendais Broadway en direction de la 42e rue, vous pouviez être sûr que j'allais dire à la jeune femme qui marchait à mes côtés, « Saviez-vous que les New-Yorkais ne voient jamais rien ?»«
Non, sans blague. »«
Si, si, vous pourriez pratiquement faire n'importe quoi, je veux dire, un gars pourrait tomber raide mort ou quelqu'un pourrait sortir un revolver et tuer quelqu'un, et les passants poursuivraient leur chemin sans même ralentir le pas. » Il faudrait carrément bloquer le trottoir. S'il y avait une bagarre, ils ne s'arrêteraient que si vous bloquiez le trottoir pour les empêcher de passer. Là, ils s'arrêteraient, et ils regarderaient la bagarre. Vous pouvez exciter la curiosité des gens en bloquant le trottoir et en regardant en l'air, mais avant de regarder en l'air, vous devez d'abord bloquer le trottoir. Ce n'est qu'à ce moment-là que les gens regarderont aussi en l'air. Très très bizarre, mais ils ne voient jamais rien. Ils ne font pas attention à vous. Si vous ne bloquez pas carrément le trottoir, eh bien, ils ne remarquent rien.
Oh, je ne vous crois pas.
Vous voyez, une jeune fille du Middle West ou quelque chose comme ça. Savez-vous que je pourrais être ici, au coin de Broadway et de la 42e rue, en train de vous embrasser, et il n'y aurait pas une seule personne qui jetterait un regard dans notre direction?
Je n'en crois pas un mot.
Très bien, je vais vous montrer. Ça n'a jamais raté. Ça marchait à tous les coups, technique superbe. Il y aura une récompense pour celui d'entre vous, messieurs, qui l'essayera. Quoi qu'il en soit, ce que je veux dire ici, c'est que vous prenez des mots banals, comme observer, inspecter ou se familiariser, des mots tout ce qu'il y a de plus banal, vous pouvez vraiment en faire quelque chose d'énorme. Ces mots deviennent quelque chose de franchement surprenant. Et quand vous enseignez la technologie de l'éducation aux gens, vous devez commencer par les choses évidentes, et développer à partir de là. Ne commettez pas l'erreur de vouloir tout leur apprendre d'un coup. C'est nous qui menons la barque, à présent. Nous possédons la technologie de l'éducation, voyez. Elle se trouve dans cette série de conférences et ailleurs. Il n'y a pas eu grand-chose à y ajouter. Selon toute apparence, elle est très complète. Maintenant, vous allez dire, eh bien, suis-je censé enseigner l'éducation aux gens? Ah non, mon vieux. Vous n'êtes pas censé enseigner votre technologie de l'éducation à qui que ce soit. Enseignons-leur les rudiments de l'éducation. C'est-à-dire, comment fait-on pour apprendre quelque chose sur telle ou telle chose? Bien, vous pourriez vous asseoir et vous poser cette question, comment fait-on pour apprendre quelque chose sur telle ou telle chose? Bien, en la regardant, en la touchant, en en entendant parler, en lisant des livres qui en parlent, en voyant à quoi elle se rattache. Vous pourriez très facilement dresser la liste. Mais il en ressortirait, évidemment, des choses comme sentir, observer, etc., etc. Maintenant, si vous décomposez les choses de la sorte, lors de votre toute première approche de l'étude, eh bien rendez-vous compte qu'on peut toutes les appliquer au problème qu'une personne a au niveau 0 ou au niveau 1. Vous pourriez donner toutes sortes d'informations inutiles, concernant toutes sortes de choses inutiles qu'on vous amène sur le tapis dans ce domaine. Jetons-y un coup d'œil. Donc vous ne dites pas « Voyons voir, j'ai enseigné la scientologie à ce bonhomme. » Eh bien, il existe quelque chose appelé la RC, il s'agit de l'affinité de la réalité de la communication, elles forment un triangle, et ainsi de suite. Il va dire « Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Voyez-vous, il ne sait pas qu'il existe quelque part des choses qu'il ne sait pas. Voilà l'une des premières choses qu'il ne sait pas. Il pense qu'on a déjà tout découvert dans le monde. Il ne sait pas que la société a des lacunes à combler. Regardez un peu comme l'homme de la rue grogne quand on lui parle de vie passée ou de telle et telle chose. Vous pourriez prendre un gars qui hurle à tue-tête que les implants ça n'existe pas, lui donner un item d'un line plot des Latrobus et lui dire « Dites ce mot ». L'électromètre ferait « bloing » et lui il ferait « glurps ». Puis vous lui donnez l'item suivant, dites ce mot, « bloing, bloing ». Eh bien si les implants ça n'existe pas, d'où viennent toutes ces réactions d'électromètres? Les électromètres, ça ne fonctionne pas tout seul. Mais lui enseigner qu'il existe une chose comme les implants. Donc, en fait, la chose à laquelle vous vous heurtez en scientologie, ce n'est pas la malveillance de la société ou le parti pris de la société ou sa répugnance à accepter de l'aide, ni aucune de ces choses. Ce n'est même pas l'ignorance dans laquelle elle est plongée. La chose à laquelle vous vous heurtez, en fait, c'est la technologie incorrecte de l'étude que possède la société. et cette technologie les empêche d'apprendre les choses dont vous leur parlez et de concevoir qu'il existe d'autres connaissances. Une technologie qui estropie l'intellect, qui plonge l'individu dans un état de non-compréhension générale et de stupidité dans lequel il devrait être interdit de plonger les gens. Autrement dit, vous vous adressez à un individu mentalement estropié, ossifié même, qu'on a soigneusement et systématiquement détruit, bien qu'accidentellement et inintentionnellement, depuis le jour où il s'est assis sur les genoux de sa mère et a dit « Maman, c'est quoi un chat ?» Et elle a dit « Ne m'embête pas maintenant. » Voyons voir, les chats sont des « ne m'embête pas maintenant ». Cet individu est le produit d'un système d'éducation qui a menacé de l'adosser au mur de briques sociales et de le fusiller socialement avec des fusils mitrailleurs sociaux s'il n'obtient pas 20 sur 20 dans toutes les matières et qu'il ne termine pas premier de sa classe, alors qu'il ne comprend même pas la signification du mot « école ». Tout s'est ligué contre lui, tout s'est opposé à ce qu'il devienne plus intelligent ou plus éduqué, et vous attendez peut-être à ce qu'il vous accueille à bras ouverts lorsque vous lui présentez cet ensemble énorme de connaissances. Eh bien, en premier lieu, pour lui, l'étude, ça veut dire avant tout être descendu en flamme. Et voilà qu'il doit à nouveau étudier. De plus, des gens comme vous, ça ne peut pas exister. Parce que tous les sujets d'études sont dangereux vu que vous êtes fusillés si vous ne les connaissez pas. Vous voyez le genre d'idées bizarres qui vont leur trotter dans la tête. Autrement dit, la ligne de communication est bloquée. À cause de quoi est-elle bloquée ? À cause de l'étude. Donc, employez l'étude quand vous disséminez. Est-ce que vous vous rendez compte que l'étude elle-même est un excellent instrument de dissémination qui fonctionnerait à merveille ? Et si vous commencez à vous en servir, je suis sûr que vous obtiendrez des résultats éclairs. Il n'y a qu'une petite chose contre laquelle je vous mettrai en garde ici, n'abordez pas l'étude avec un trop-plein de zèle. Prenez simplement les éléments évidents de l'étude et faites-en les éléments à étudier avec beaucoup de zèle. Car quel que soit le zèle déployé par la personne pour les étudier, elle les verra toujours. Et vous allez avoir des personnes qui voudront compliquer les choses à souhait, dans le sujet de l'observation par exemple. Eh bien, laissez-les compliquer le sujet tout leur sou. Elles n'aboutiront à rien d'autre qu'à l'observation, pas vrai ? Elles finiront par découvrir que l'on observe en observant. Voilà la conclusion à laquelle elles vont obligatoirement aboutir. Peu importe le nombre de systèmes d'observation qu'elles développeront, elles finiront par en arriver à cette conclusion. Si l'individu observe les choses, il ne pourra faire autrement qu'apprendre des choses, et apprendre des choses sur l'étude. Donc si vous parvenez à lui faire comprendre des principes aussi généraux et aussi fabuleusement simples que celui de l'observation, il va soudain être complètement d'accord avec vous. Il dira « Ça alors, ouais, si j'observe ma femme, ah ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Comment est-elle quand je lui parle? Eh bien, il va falloir que je vérifie. » Et en se familiarisant avec sa femme, en employant cette forme d'atteindre et se retirer qu'est l'observation, en observant sa femme, il aurait moins de problèmes avec elle. Il apprendrait à mieux la connaître, il la comprendrait mieux. Vous vous adressez à des gens qui se sont complètement retirés de l'existence. L'étude est bien sûr l'une des meilleures méthodes au monde pour les sortir de leur retraite. Merci.